plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes-robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Pourquoi vous avez fait tout ça?
Parce que j'avais envie de le faire.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
L'essentiel, c'est que la vertu triomphe.
La Bébelle Époque.
Je n'ai pas l'oreille musicale du tout. Je suis un handicapé de ce côté-là. Et j'avais dit à Clouseau, quand il m'a fait faire les bouts d'essai, il m'a dit, c'est un chef d'orchestre. Je lui ai dit, c'est pas possible, je suis incapable de battre la musique. Je lui ai dit, avec moi, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Là, il m'a fait faire les bouts d'essai avec Brigitte Bardot.
Elle a fait ça avec d'autres, hein.
Et ça, c'était le côté agréable du bout d'essai. Et après, il fallait passer à la baguette.
Oui.
Et alors là, il fallait... Et bien, vous voyez, vous pouvez... Oui. Ça s'arrête là. Et alors après, il a vu que c'était impossible. Et il a fermé la porte à clé. Et il voulait vraiment me forcer à apprendre la musique. Et alors là, moi, je me suis énervé. J'ai dit, si vous n'aurez pas la porte, je la fous par terre. Oui. Donc, ma prestation s'est arrêtée là.
Oui.
Et puis, bon, ben, c'est Samy Frey qui l'a fait, qui était remarquable dedans. Je n'ai pas de regret.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, D'à bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Vous n'avez pas tout dit, Delmas.
Nous sommes en 1956, Belmondo a 23 ans et il tourne pour la première fois devant une caméra de cinéma et dans un film qui cependant ne verra jamais le jour des salles obscures. Intégralement financé par la CGT, Les Copains du Dimanche, réalisé par Henri Asner, ne sera projeté que dans les meetings du syndicat. Mais, et c'est l'essentiel, l'acteur découvre alors d'autres plaisirs que ceux du théâtre en incarnant le rôle de Trébois, un jeune ouvrier qui, avec ses camarades, décide de réparer un vieil avion pour le faire voler. Lors d'une soirée autour d'un feu de bois, son personnage s'empare d'une guitare tandis que s'improvise autour de lui une chanson à la gloire de l'entreprise collective. Belmondo fait ainsi ses premiers pas dans le 7e art, en jouant ce qu'il ne sera jamais, un musicien et un chanteur. Magie du cinéma et de la fiction, le mentir vrai à l'état pur. L'histoire pourrait s'achever là, si en 80 films, Belmondo n'avait pas côtoyé la fine fleur des musiciens du cinéma français, de Georges Delerue à Michel Legrand et Philippe Sard, en passant par Antoine Duhamel, François de Roubaix, Martial Solal, Maurice Jarre et Vladimir Cosma notamment. Plus deux stars internationales, Stéphane Sondheim et Ennio Morricone. Devant un tel casting musical, on ne pouvait passer sous silence toutes ces belles BO de Bébel. Et qui mieux que Stéphane Lerouge, le spécialiste de la musique de film, éditeur chez Universal, pour nous accompagner et nous guider dans cette balade. En route donc, ou plutôt, comme il le dit lui...
Allons-y, allons-y.
En attendant Godard, il eut bien entendu quelques films et quelques musiques donc, et même quelques compositeurs célèbres dont Paul Misraki, qui signe la BO de 3 films parmi les 5 premiers de l'acteur, « À pied, à cheval et en voiture » de Maurice Delbé, « Drôle de dimanche » de Marc Allégret et « À double tour » de Claude Chabrol. Mais c'est à l'évidence le grand pianiste de jazz Martial Solal et sa musique pour « À bout de souffle » qui retiennent d'entrée de jeu l'attention de notre guide Stéphane Lerouge.
Et c'est très curieux parce que Martial Solal, l'une des raisons qui l'a fait accrocher au film, c'est le magnétisme de Belmondo et du couple Belmondo-Seeberg. Et curieusement, quand on lui demande comment il a travaillé, comment il a mis au point cette musique, on penserait presque qu'il a écrite ou improvisé presque à l'image.
Oui.
Alors qu'il a écrit tout à fait à l'ancienne, avec des points de synchro. On commence à 1 minute 43, on termine à 1 minute 44 et 12 centièmes. Voilà, vraiment à l'ancienne. Et il y a ce thème magnifique qui est le thème de la mort du personnage de Poincaré. Et le thème d'amour.
Très bien.
Je vais vous chanter plein de choses aujourd'hui encore.
Ah, volontiers.
Et l'autre thème qui est le thème d'amour entre Belmondo et Seeberg, le thème sur les Champs-Élysées, c'est quasiment le même thème mais à l'envers. Et donc inconsciemment, il y a une sorte de symétrie entre ces deux thèmes inconscientes qui naissent chez le spectateur. Et c'est marrant parce que quand Jean Becker va reconstituer le tandem, le binôme Belmondo, Jean Seeberg, dans un film un peu oublié aujourd'hui qui s'appelle Échappement libre.
C'est vrai.
Il ira chercher Martial Solal parce qu'il se dira, mais finalement, ce couple-là est indissociable de l'écriture de Solal.
L'histoire de Belmondo avec la musique de film n'est même pas celle d'un rendez-vous raté, puisque de la vie de tous, et d'abord du principal intéressé, c'est un domaine qui ne fait pas partie de son univers. Clouzot s'y cassa donc les dents, et bien des années plus tard, Michel Legrand et Jean-Paul Rapneau, pour les mariés de l'an 2, finiront par en convenir, Belmondo chante faux. Autant en prendre son parti, autant même utiliser pour les bienfaits de la comédie ce petit défaut. Et après avoir écouté Stéphane Le Rouge, on verra d'ailleurs comment le cinéaste et son compositeur prennent un malin plaisir à chanter très juste à la place de l'acteur.
Belmondo a commencé vraiment à rencontrer des compositeurs au moment de Cerito, c'est un moment où
il devient producteur,
c'est-à-dire en 74. C'est-à-dire il y a à peu près à l'âge de 40 ans jusqu'alors, le choix des compositeurs, ce sont les choix des cinéastes avec lesquels il travaille. Il y a un compositeur qui a rencontré Jean-Paul Belmondo, et qui est Michel Legrand, sur ce film que vous évoquez dans votre série, qui est Les Mariés de l'an 2. Ouais. Et au départ, il y a le personnage de Belmondo, donc, qui revient en France, qui vit aux États-Unis, qui revient en France pour divorcer. Et il entre comme ça dans une espèce de réunion secrète de royalistes qui répètent un faux hymne révolutionnaire écrit par Michel Legrand donc pour la musique et Jean-Paul Rapneau pour les paroles. Et
donc, gloire à la République.
Gloire, mort à tous les fanatiques.
Mort à tous les fanatiques. Voilà.
Et donc Belmondo, à un moment donné, on pense qu'il fait partie des chanteurs, on lui donne une partition et il doit commencer au départ à très bien la lire et puis ça se dérègle. Et donc Michel Legrand va chez Belmondo pour le faire répéter et Legrand me dit « Mais je m'aperçois que la musique est Belmondo, mais il y a un grand canyon, ce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le rythme, le tempo, la hauteur des notes, la justesse, la mise en... Il ne comprend rien. » Et donc, ils vont faire 3, 4, 5 séances, et Legrand m'a dit je me revois appelant Rapneau en lui disant « Écoutez Jean-Paul, il se vous voyait, ce qu'on va faire, c'est que le personnage de Belmondo va arriver, et tout, il va prendre une partition, et il va chanter faux. C'est pas la peine de le faire chanter juste pour que ça devienne faux. Voilà, il n'y a aucune musicalité en Jean-Paul Belmondo. »
Encore une fois.
Jeune guerrier pour les combats, que la vertu arme vos bras. Peuple exemple éclatant du monde.
Ah, enfin.
Par tes travaux nettes et se fondent sur l'autel de la liberté, le bonheur de l'humanité.
À vous. Allez-y. S'en est fait déjà tout l'annonce, la France. Je ne sais pas très bien lire les notes.
Je crois que vous avez dit que votre film, enfin, c'était un opéra. Je crois que vous aimez bien l'opéra. Enfin, vous considérez que le cinéma, c'est l'opéra. Hein.
Oui, j'ai voulu
une forme d'opéra,
les gens en aient plein la vue et plein les oreilles.
Jean-Paul Rapneau et Michel Legrand en 1971 sur France Culture.
Enfin, il y avait un aspect, comment dire, épique. Et je voulais une musique qui soulève le film à des hauteurs inouïes.
Alors Michel Legrand, comment...
Venez au piano, Michel Legrand, venez au piano.
Comment avez-vous travaillé avec Michel Legrand pendant qu'il va au piano, dites-nous ça.
Eh bien, la difficulté,
vous lui avez donné des contraintes très précises
Non.
Pas du tout, on a écrit avant le tournage, longtemps avant le tournage, on a écrit avec Jean-Paul des chants révolutionnaires. Alors on s'est réunis tous les deux, on a cherché un petit peu le style, se rapprocher plus petit de l'authenticité de l'époque, avec notre humour, notre esprit et notre sérieux, si je veux dire, et on s'est beaucoup amusé à faire ces playbacks et à réinventer enfin, cette espèce de chant.
Oui, il y a des pastiches, un peu.
Oui, mais enfin, attention.
Il y a des chansons
Non, il n'y a pas de chansons, il y a une chanson, mais oui. Oh, liberté.
Bah, chantez le chant, justement, là,
mais,
par exemple.
Mais je ne m'en souviens pas du tout, je ne l'ai pas devant les yeux et C'est vous qui le chantez, Jean-Paul, parce que vous allez vous souvenir des paroles.
Oui, allons-y, essayons. Ça va être,
allez,
ça va être
en duo, Michel Legrand, Jean-Paul Rapneau.
Oh, liberté, liberté sacrée, liberté, bien-aimée, peuple fier, tu n'as qui pourrait le rond et faire. La grandeur t'appelle, ô liberté, liberté sacrée. Excusez-moi, ma voix est épouvantable.
On peut donc chanter faux et ne rien comprendre à la musique tout en jouant le premier rôle d'un film de Godard dont la BO, écrite par Antoine Duhamel, compte parmi les plus belles et les plus lyriques du cinéma français. Stéphane Lerouge revient sur cette magnifique composition et sur celle de Francis Lai pour « Un homme qui me plaît » de Claude Lelouch. Aux côtés d'Annie Girardot, Belmondo incarne rien moins qu'un compositeur venu aux États-Unis pour écrire et faire jouer une musique de film. Lelouch n'a pas eu les pudeurs de Clouzot. Pour lui, Belmondo peut manifestement tout interpréter.
Belmondo est un grand instrument de musique quand il s'agit de mots, qu'il s'agisse des mots d'Audiard ou de
Duras,
ou de Francis Weber, par exemple. Mais quand il s'agit vraiment de notes de musique, là, voilà. Et d'ailleurs, on notera que, contrairement à toutes les grandes vedettes de sa génération, Delon, Girardot, Romy Schneider, même De Funès avant lui, il est le seul à n'avoir jamais chanté.
Jamais chanté. Hein, ça, on en est certain. Il n'y a pas un document qui traînerait. En tous les cas, dans aucun film, on entend Belmondo chanter.
Et simplement qu'il chante faux dans Les Mariages de Landau, mais c'est volontaire, parce qu'il était incapable du contraire. Et je me souviens que sur Pierrot le Fou...
Dans lequel son personnage est censé chanter.
Il est vraiment, vous avez raison de dire censé. Et à un moment donné, il a fallu faire le disque, etc. Donc réenregistrer notamment les deux chansons de Serge Resvani, Ma ligne de chance et Jamais je n'étais dit que je t'aimerais toujours. Et là, Resvani a dit non, bon, on va engager un choriste, un chanteur de studio pour remplacer Belmondo dans son dialogue avec Carina, parce que le vrai Belmondo n'arrivera jamais. Donc voilà, donc il l'admettait. Et d'ailleurs, Michel Legrand me disait, on s'est recroisé comme ça après Les Mariés de Londres, dans des soirées, etc. Et dès qu'il voyait Legrand, il disait, ah non, non. Toi, n'essaye pas, je ne chanterai pas. Voilà, c'était presque comme une sorte de gimmick entre eux.
Oui, c'est incroyable, parce que, enfin, on le rappelle, même Gabin a chanté. Enfin, Gabin a chanté très très bien. Et puis voilà, il y a des grands acteurs. Les grands acteurs français sont en général aussi des grands chanteurs. Belmondo, c'est presque l'exception qui confirme la règle. Et le paradoxe absolu, c'est que quand même, Claude Lelouch, dans Un homme qui me plaît, lui a fait jouer...
Un rôle de compositeur.
De musique de film.
De musique de film. Et... D'ailleurs, je crois qu'il s'est posé la question, enfin, c'est ce que m'avait dit Francis Lai à un moment donné, puisque le rôle de Francis Lai est joué dans le film par Belmondo, il est compositeur de musique de film français, mais travaillant aux États-Unis, et qui, dans cette séquence devenue célèbre, il donne dans une décapotable dans le Grand Canyon à Annie Girardot les recettes pour écrire, les ingrédients pour écrire une bonne musique de western. Et à un moment donné, il aurait été logique que, puisqu'il est le compositeur, il dirige également l'orchestre à la séance d'enregistrement. Tous les compositeurs ne sont pas leur propre chef d'orchestre. Bon, ça aurait été plus spectaculaire. Il y aurait une sorte d'identification entre le personnage, composant et dirigeant. Et Francis Lai avait dit, on s'est très vite rendu compte que Maître Belmondo battant la mesure, même à deux temps devant un orchestre, c'était pas gagné. Donc dans le film, il est en cabine et il a un chef d'orchestre.
Et comment on fait une fausse musique de western ?
Ah, ça c'est une question d'orchestration. Ouais, ouais. Faut beaucoup d'instruments. Faut des cors. Il faut des violons. Faut des timbales. Et puis il faut un maxi de percussions. Beaucoup de percussions. Et tu peux mettre... Qu'est-ce que tu peux mettre encore? Bah, tu peux mettre de la flûte. Et puis voilà.
Et quand on a tout ça?
Et bien quand on a tout ça, les Indiens, ils n'ont plus qu'à attaquer.
Stéphane Lerouge prolonge son propos sur la BO de Pierrot le Fou, décidément à part dans la filmographie de Belmondo.
Duhamel avait un rapport simple et complexe à Belmondo, puisqu'il a mis en musique dans deux films. Un film qu'il n'aimait pas spécialement, qui était La Sirène du Mississippi, qui était un film de dissonance de Truffaut, et qui était un film aussi compliqué pour lui dans son rapport à Truffaut. Et c'était difficile même pour Duhamel. Il se souvenait que la première fois qu'il avait vu le film, il disait, mais il avait réagi presque comme Belmondo lui-même découvrant le film, c'est-à-dire se disant, moi quand je vais voir un film avec Gary Cooper, disait Belmondo, j'ai envie que quand il joue un rôle de victime ou qu'il est dans un contre-emploi, j'ai envie qu'à la fin, il prenne conscience de la manipulation dont il a été la victime et il donne des coups.
Ce qui n'était pas du tout le cas du personnage.
Ce qui n'est pas le cas. Et donc Duhamel a dit, j'étais là et j'avais un Belmondo qui reste victime jusqu'au bout. Voilà, et Pierrot le Fou, en revanche, c'est un grand souvenir, évidemment, et parce que là, Duhamel racontait toujours cette magie de cette cavale tragique vers le sud, vers le soleil, Et le soleil, c'est aussi le rendez-vous avec la mort. Et cette grande séquence magique aujourd'hui qu'on montre toujours dans toutes les écoles du cinéma, au cours de laquelle le couple Belmondo-Carina traverse la Durance tout habillé, ce qui donne c'est le détail insolite, et que sur ce thème-là, Duhamel a eu l'idée de ce fameux thème, cette grande pièce pour cordes au lyrisme douloureux, Ferdinand. Et que, mais sans s'accorder et sans aucune concertation avec Godard. Godard était à l'enregistrement, il découvrait la musique sans savoir où exactement il allait placer ses morceaux. Il lui prenait des notes dans un coin en marge du Nouvel Observateur. Et quand Duhamel a découvert le film mixé, il s'est rendu compte que Duhamel avait placé exactement ce morceau, Ferdinand, sur la séquence de la traversée de la Durance. Il y avait une compréhension totale, mais avec une totale absence de dialogue.
J'aime mon amour, c'est la tranquillité. Je joue sur le velours de la sécurité, mais c'est dur. J'en conviens, car on n'a rien sans.
C'est pour le film Tendre Voyou que Michel Legrand a écrit et composé ce titre.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
La Bébelle Époque par Laurent Delmas.
Le voleur de Louis Malle, l'un des plus beaux rôles à nos yeux de Belmondo au cinéma, fait figure d'exception musicale dans la carrière de l'acteur. Dans ce chef-d'œuvre, pas de musique originale. Ce que l'on entend, c'est ce qu'entendent les protagonistes. Stéphane Lerouge revient donc pour nous sur ce film décidément singulier.
Un des plus beaux films de Belmondo, disons, en anti-héros en tout cas, et avec un jeu qui poussait quasiment jusqu'à l'absence de jeu. Et avec une grande intensité, alors qu'il est complètement d'une placidité, d'une impassibilité absolue. J'ai rencontré, moi, simplement Belmondo à 3-4 reprises, et j'ai pu lui dire à quel point j'étais vraiment le président de l'Association internationale des Amis du Voleur. Ouais. Et il m'a dit que c'était un film, lui aussi, qui était vraiment, vraiment cher à son cœur. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça vous choquait qu'il n'y ait pas de musique ? Alors, bon, il y a des musiques à un moment donné. Il y a le monteur du film, qui est Henri Lanoé, qui était aussi compositeur, et qui était aussi le monteur de Broca, et qui a écrit une petite boîte à musique. Enfin, il y a deux, trois petites citations comme ça.
Mais qui sont diégétiques, comme on
voilà,
dit,
c'est-à-dire qui sont dans le récit. Mais voilà, mais c'est très curieux. Michel Legrand disait toujours, quand la musique d'un film est réussie, c'est comme un comédien, c'est comme la lumière, on ne peut plus imaginer ensuite le film avec une autre musique. Ce quand elle est juste par rapport au propos du metteur en scène. Eh bien, c'est curieux, mais là, c'est l'absence du musique qui est réussie, parce que vous voyez le voleur. J'aurais du mal à imaginer le début du film, Darien Belmondo escaladant ce mur de cette propriété, de cette maison bourgeoise en banlieue parisienne de la banlieue ouest, pour aller la cambrioler. Et le long cambriolage revient, chapitre quasiment le film. J'aurais du mal à imaginer cette séquence en musique.
Vous savez, Georges, le vol n'est pas une facétie. C'est un métier, il faut l'apprendre. Votre premier coup était d'une audace presque enfantine. Vous avez eu de la chance, mais ne vous y fiez pas.
Je ne demande qu'à m'instruire.
Vous vouliez travailler seul ?
Non, j'avais mon plan. Me faire mettre en prison pour une peccadille et m'y faire des amis.
Dans la mesure du possible, éviter la prison. On y fait de mauvaises rencontres. Et Dieu qu'on y mange mal. Non, vous êtes l'indépendance même. Vous allez voir du pays, des hommes, réussir. Vous en avez le courage. Et puis au moins vous ferez quelque chose de vos 10 doigts. L'action, Georges. Tout est là.
Tu as pris les bijoux sans réfléchir. Ça me paraissait évident.
C'était plus fort que vous. Je la connais, cette force irrésistible. Je la connais bien. Tout y passera. Vos heures, vos songes, vos peines. Et ce ne sera ni pour le profit, ni pour le scandale.
Je n'ai jamais pensé bassement.
Vous n'êtes pas un bourgeois, mais un voleur.
Dans la carrière de Belmondo, il y a, on le sait désormais, un avant et un après Stavisky, le film d'Alain René. Déçu par son audience qu'il jugeait trop faible, l'acteur prit le chemin d'une carrière ouvertement commerciale. Bien des années plus tard, Stavisky n'en demeure pas moins une œuvre majeure et l'un des très rares de Belmondo dont la BO fut signée par un compositeur étranger. René fit tout simplement appel à la star de la comédie musicale américaine, Stéphane Sondheim, l'auteur, entre autres, de West Side Story.
Et c'est très très curieux. C'était la première production Cerito et elle s'est faite vraiment sur un film ambitieux. J'aurais aimé être dans le bureau de Belmondo et René Chateau à l'époque, le jour où René leur a dit... Pour la musique, je vais suivre...
De Stavisky.
Je vais suivre mon principe, c'est-à-dire de ne jamais faire appel à un professionnel de la musique de film. René détestait les compositeurs qui ne travaillaient que pour l'image. Il voulait toujours aller chercher des profanes de la musique de film. Et là, donc, c'est le pape, l'empereur de la comédie musicale new-yorkaise d'auteur, qui est Stephen Sondheim. Donc, imaginez...
On rappelle qui...
C'est le parolier de West Side Story, c'est le compositeur et auteur, puisqu'il avait le double statut de Sweeney Todd, Sunday in the Park with George, Into the Woods, etc. Donc, c'est assez étonnant. C'est un géant. Et j'ai eu la chance de faire un album sur les musiques des films d'Alain René. J'avais demandé à Sondheim une interview. Je lui ai envoyé mes questions par mail. Il m'a renvoyé à l'époque un CD sur lequel il répondait à mes questions. Et il a eu cette très belle réflexion. Il m'a dit « René m'a laissé libre. Il avait peur qu'il y ait un décalage entre l'image de Belmondo, c'est-à-dire que ce que le public pouvait attendre de Belmondo, et la réalité du film, qui est quand même un film très Alain René, qui est vraiment un vrai film, presque apparemment, à certains aspects, presque de recherche. Absolument. Et donc René avait un peu peur qu'il y ait ce décalage entre l'attente d'un public par rapport à un Belmondo et l'identité réelle du film, et ses parties pris de mise en scène. Et donc René avait dit à Sondheim, je compte sur vous, votre musique doit être une passerelle vers le public. C'est-à-dire que la musique devait quand même rester lisible et devait rendre accessible le propos de Stavisky à un large public.
Il y a quelqu'un ?
Par ici. Par ici, monsieur Véricourt.
C'est fini, Alexandre. On tire le rideau. Vous avez 3 jours pour partir. Attendez nos instructions à Chamonix.
Si je reste ici, Véricourt, je renverse la situation. Dans 8 jours, j'aurai 1 million de livres sterling.
Dans 8 jours, si on vous laisse faire, vous aurez toutes les polices de France à vos trousses.
Ils oseraient s'en prendre à moi? Ils ont mangé à ma table, ils ont touché mes chèques. Ils ont fait partie de mes conseils d'administration. Et ils oseraient s'en prendre à moi? Mais je m'appelle Alexandre. Je suis pas muet. J'ai des choses à dire.
Bien loin des ambiances de Stavisky, certaines des comédies de Belmondo, policières ou non, jouent à fond la carte du divertissement. Comme nous le rappelle Stéphane Lerouge, des compositeurs aussi différents que Vladimir Cosma et Philippe Sard se sont mis au service de l'acteur et de ses réalisateurs dans cette veine du pur divertissement. De L'Animal de Claude Zidi au Guignolo de Georges Lautner, regard sur des compositions qui racontent aussi des histoires.
D'abord, Cosma et Sard ne sont pas les plus grands compositeurs belmondiens. Georges Delerue est le recordman absolu avec 8 films, Francis Lai avec 5 films, Morricone 4, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout dans la période, disons, purement Cerito, c'est-à-dire qu'après Stavisky, on arrive tout de suite, on commence avec Peur sur la ville, ça va durer à peu près 12-13 ans, bah, il faut vraiment toucher là, un public vraiment populaire. Et L'Animal, par exemple, qui est une production Christian Fechner et Cerito, Fechner vient du disque, il était le producteur des Charlots chez Vogue, et il voulait toujours flatter le public avec les goûts musicaux du moment. Donc là, il n'y a pas eu vraiment d'alternative, et Cosma a écrit un thème qui est réussi. Le problème n'est pas le thème en soi, c'est son traitement, en lui disant, il faut un rythme disco, parce que c'est ce qu'on écoute en ce moment. Cosma a écrit un thème disco avec des mêlants au départ, des rugissements de fauve, l'animal, et des espèces de râles sensuels de Raquel Welch. Voilà, et ça donne ce thème qui a un certain charme, mais évidemment qui porte sur lequel quand même le recul du temps a mis un peu de poussière.
Qui a énormément vieilli, absolument. À l'inverse du thème paradoxalement très romantique écrit par Philippe Sard pour le Guignolo, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas d'un romantisme fou, sauf à considérer les caleçons blancs à pois rouges romantiques, même sur le Grand Canal de Venise. Mais quand même, la partition de Sard, elle est étonnante de ce point de vue-là.
Elle est étonnante parce que, tout simplement, Sard a toujours eu, lui, cette idée de faire attention à ce que la musique ne donne pas une date de péremption au film. C'était un de ses combats. Par ailleurs, il trouvait que, en soi, l'exploit de Belmondo de s'accrocher à un trapèze et de se faire suspendre à un hélicoptère au-dessus de Venise, c'est un exploit sportif en soi, mais quand, en termes de dramaturgie, la séquence dure quand même 3 minutes 30, c'est un ventre-mou, c'est un temps mort, parce que voilà. Et donc, il était un peu hésitant, il s'est dit la seule façon de sauver la séquence à laquelle Belmondo tenait, il était producteur du film, c'était de lui donner une dimension qui ne soit pas dans l'image. Et au lieu de jouer la carte du disco, dont c'était encore la mode, au lieu d'écrire une musique d'action, il fallait ajouter un état supplémentaire. Et il y a eu l'idée d'aller chercher, comme ça, un des plus grands harmonicistes au monde, qui était le belge, le bluesman belge Toots Tielemans, et d'écrire cette grande pièce lyrique, le London Symphony Orchestra, quelques mandolines quand même pour faire couleur locale, et l'harmonica soliste de Toots. Ouais. Et ça a été, ça a beaucoup choqué, paraît-il, à l'époque. Belmondo n'était pas satisfait. Ouais. Et Laudner est monté au créneau en disant « c'est mon film, non là franchement, je tiens à ça, vous verrez, si vous n'êtes pas content maintenant, on en reparlera dans 30 ans ». Et finalement, Sard et Belmondo se sont reparlés et le conflit était passé et Belmondo lui a dit « je crois que finalement le temps t'a donné raison ». Puisque l'effet corollaire de cette petite bataille minuscule sur la fameuse séquence du caleçon à pois et de l'hélicoptère du Guignolo, c'est que Sard n'a pas écrit la musique du professionnel un an plus tard.
La première collaboration entre Belmondo, Lautner et Sard remontait à 1978 pour Flic ou voyou. Stéphane Le Rouge évoque cette BO pas comme les autres, jouée par de grandes figures du jazz international.
Lautner sortait à l'époque, il avait fait un an plus tôt un de ses plus beaux films des années 70, un des plus aboutis, qui est Mort d'un pourri, qui est un vrai film, un vrai polar, avec un petit fond social, politique, poil à gratter, et avec Alain Delon en vedette, et il a vu cette idée magnifique d'associer au visage d'Alain Delon, au regard d'Alain Delon, le timbre du saxophone de Stan Getz, sax ténor. Et donc, un an après, Belmondo arrive dans la vie de Laudner. Laudner n'avait jamais travaillé avec Belmondo à l'époque. Delon, d'ailleurs, le vivra comme une trahison et ensuite ne retravaillera plus jamais avec Laudner. Et Sard va se dire, il faut que je trouve l'équivalent, le timbre et l'instrumentiste que j'ai eu pour Delon, il faut que je le trouve pour Belmondo. Et il s'est dit, je pense que dans l'insolence du comportement de Belmondo, dans sa gouaille, il y a quelque chose qui me rappelle la trompette de Chet Baker. À l'époque, Chet Baker n'avait jamais enregistré pour un film français, ils sont allés le chercher. Et il y a, comme vous le disiez, il y a cette compression du sujet du film. Parce que Flic ou voyou, Laudner, quelque part, il copie-colle un tout petit peu le principe du pacha, c'est-à-dire un flic qui se sert des méthodes des voyous pour arriver à ses fins. Et donc, un flic complètement schizophrène. Et donc,
le titre l'indique bien.
Le titre l'indique bien. Et voilà. Et donc, Sartre se dit, flic ou voyou, je commence sur quelque chose de néoclassique, en petite formation chambriste, avec un petit parfum baroque, et d'un seul coup, tchac, la rythmique arrive, Chet Baker, et là, c'est le côté voyou. Et le côté flic dialogue avec le côté voyou, et puis à la fin, les deux se superposent, et on comprend que c'est un seul et même personnage.
Thank you. C'est l'une des musiques de film que l'on associe le plus aisément à Jean-Paul Belmondo. Elle est signée Claude Bolling pour le film de Jacques Deray, Borsalino, qui mettait en avant le duo Belmondo-Delon à Marseille dans les années 30. Claude Bolling, on y reviendra, signa également celle d'un autre film phare, Le Magnifique, de Philippe de Broca.
J'aime beaucoup Jacques Deray, qui a écrit vraiment des grands films. J'adore Flick Story, par exemple, ou bon, évidemment La Piscine, On ne meurt que deux fois. Je n'ai jamais réussi à accrocher à Borsalino.
Vous avez le droit.
Parce que je trouve que c'est une hérésie. On ne peut pas monter un film, en termes de montage, je ne parle pas de montage financier, mais de montage, etc., ouais. Avec cette espèce de... comme s'il y avait un huissier en salle de montage où, finalement, il faut respecter le même nombre de plans de la même valeur pour chaque vedette. Ouais. Et je trouve que le film se traîne énormément. Et je trouve que l'apport de la musique est énorme. Parce que, justement, il y a une espèce de contrepoint d'allégresse. La musique, les thèmes sont sur des tempos rapides, les deux thèmes principaux. Et justement, la musique donne l'impression que le film est beaucoup plus rapide qu'il ne l'est en réalité. Alors que le film, je trouve, rangement, a une sorte d'inertie quasiment, pour des raisons juridiques. Hein. Et ce que j'ai trouvé émouvant, en revanche, c'est que c'est Alexandre Desplat qui a mis la musique, en musique le film de Patrice Lecomte, ce qui est un gros pari pour lui.
Donc l'autre rencontre.
L'autre rencontre, en 98, donc on est 28 ans après Borsalino. Et à un moment donné, quand on sent que finalement l'inimitié de base entre les deux personnages s'efface et qu'il y a une complicité qui naît entre eux. D'ailleurs, les deux personnages à ce moment-là dans le film de Lecomte passent au tutoiement. Belmondo emmène Delon dans une espèce de caverne d'Ali Baba avec rempli d'armes, de grenades, de fusils, et tous les deux prennent des mitraillettes à camembert. Et là, Belmondo dit à Delon, est-ce que tu crois qu'on va toujours savoir ? Et là, on entend le thème de Borsalino en citation sous le dialogue. Et là, on voit tout de suite la connivence qui vient du passé et qui vient du film Jacques Deray.
Rock, ça va comme tu veux ? Ça va. Et toi ? Qu'est-ce que tu as ?
Rien. Je vais m'en aller.
Tu as le temps?
Pas tellement. J'ai un train à prendre.
Quoi?
Je prends un train dans une heure.
Où tu vas?
À Nice. Et de là, je pars en Italie.
Tu pars seul?
Non. J'emmène Lola.
Tu t'en vas.
Je te l'ai dit.
Pour longtemps?
Peut-être. Je passe à l'hôtel prendre mes bagages.
François. Pourquoi tu t'en vas?
Parce qu'on est deux.
Je comprends pas.
Facile à comprendre. On a eu Polly d'abord, puis le danseur, puis Marello. Aucune raison que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus qu'un de nous deux. Vaut mieux que je m'en aille avant. On finira par se tirer dessus. Peut-être moi qui commencerai d'ailleurs. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et tu le sais.
RTS la première.
RFI.
RTBF la première.
Radio-Canada.
La Bébelle Époque par Laurent Delmas.
Figure singulière dans le paysage musical et cinématographique français, compositeur iconoclaste et pop, trop tôt disparu, François de Roubaix détonne quelque peu dans la filmographie de Belmondo. Outre la BO de O, le film de Robert Enrico, c'est à lui que l'on doit celle immédiatement reconnaissable du film de José Giovanni, La Schkumoun. Belmondo reprend le rôle qu'il tenait déjà dans la première adaptation du livre de Giovanni, réalisé alors par Jean Becker. De Roubaix, Belmondo, par Le Rouge, c'est maintenant.
sur un film qui n'est pas forcément un film inoubliable, mais quelque part, la musique a presque dépassé le film, puisqu'elle est devenue aujourd'hui, elle a tellement été recyclée en indicatif, en jingle publicitaire.
Je suis sûr que vous pouvez nous la chantonner, Last Comune, puisque c'est le film Last Comune.
Oui, genre, a priori, je ne chante plus qu'en période de grande sécheresse, mais...
On va quand même tenter le coup.
Ça fait... Bon, voilà.
Ça pourrait être presque la version, parce que de Roubaix aurait adoré la façon dont vous faites, parce que c'était le roi du bizarre, du pchit, du bang, du hein, tout ce que
du bricolage de génie,
du bricolage de génie, c'est-à-dire qu'il adorait les crécelles, les petits pipeaux, les choses qui vont, qui viennent comme ça dans une partition. Mais c'est typiquement ça qui fait la force de cette musique, qui est effectivement un peu en dehors du film. Ouais. Faut bien le dire, mais c'est ça qui fait son charme.
Bah, disons que Giovanni avait dit, il faut quelque chose qui parte du timbre, notamment de l'orgue de Barbarie, parce que dans le film, il y a Belmondo un complice, comme ça, avec un orgue de Barbarie, avec un manivelle, avec des cartes perforées. Et donc, de Roubaix a fait une transposition au synthétiseur de l'orgue de Barbarie. Il a utilisé, pareil, des crécelles, des guimbardes, comme ça, qui mettent en place le thème. Et quand José Giovanni l'a entendu, il lui dit c'est formidable, c'est exactement, il y a une espèce de ritournelle vraiment entêtante et qui a une espèce de gravité souterraine. Il lui dit c'est très bien. Et de Roubaix lui dit très bien, donc je l'orchestre, on passe en studio. Et José Giovanni lui dit non, c'est parfait, tu ne touches rien. Et la maquette, enregistrée par de Roubaix lui-même dans son petit home studio rue de Courcelles, c'est où il a joué lui-même tous les instruments en re-recording, c'est-à-dire strat par strat, finalement, est devenue la version définitive du film. Et de Roubaix, d'ailleurs, dans le 33 tours, il y a donc de la Schkumun, dit, écoutez, pour moi, c'est sûrement une charnière dans mon parcours, puisque pour la première fois, la musique d'un film a complètement été pensée, conçue, enregistrée, interprété et mixé par le compositeur lui-même. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'ingénieur du son, j'ai tout fait moi-même, je suis resté dans ma pièce de 15 mètres carrés, tout est né là, et voilà. Bon, ça n'avait jamais existé avant, et après il l'a refait sur d'autres films, pour Boisset notamment. J'adore ce thème de la Schkumun, et on peut avoir forcément la frustration que 3 ans plus tard, la mort prématurée et tragique de Roubaix dans un accident de plongée a empêché qu'il retrouve Belmondo à l'écran.
Deux films de Belmondo à très grand succès. L'un réalisé par Henri Verneuil, l'autre par Georges Lautner, Peur sur la ville et Le professionnel. Et puis un compositeur italien commun, le maestro Ennio Morricone, qui signe ainsi 2 BO devenus cultes, peut-être même contre la volonté ou l'opinion du musicien. Sans oublier celle du film de Jacques Deray, Le marginal. Explication détaillée avec Stéphane Lerouge.
C'est venu par Verneuil, puisqu'il a fait... Verneuil a commencé à être accro à Morricone avec la bataille de San Sébastien, le clan des Siciliens, bien sûr. Et quand Verneuil a retrouvé Belmondo sur le CAS en 71, Morricone est arrivé. Il a écrit d'ailleurs un thème qui fonctionne un peu sur le CAS, comme le clan des Siciliens. Deux thèmes, voire 3 thèmes qui se superposent les uns les autres, chacun devenant le contrepoint de l'autre. Et puis moi, je trouve que franchement, il y a un pic avec Peur sur la ville... Le film en soi est une décalcomanie de l'inspecteur Harry de Don Siegel. On passe de San Francisco à Paris.
Et au métro aérien.
Sauf que la musique de Morricone n'a rien à voir avec la musique de Lalo Schifrin dans le film de Don Siegel. Et que, c'est peut-être un souvenir d'enfance, mais voir Belmondo à 40 ans exécuter ses cascades avec, en plus, ses mots de Francis Weber, le second degré, l'humour, l'ironie, et en même temps, la musique qui apporte un contrepoint, mais vraiment d'angoisse, qui fait sentir vraiment cette menace qui plane, avec un sifflet dans l'aigu, un ostinato piano dans le grave. Ce sifflet, d'ailleurs, disait Morricone, c'est le héros solitaire dans la ville qui doit trouver ce tueur invisible, ce fameux Minos. Et puis une partie centrale à l'harmonica, le fameux harmoniciste de Morricone, de L'été tout froid dans l'Ouest, Franco de Gimini, partie très dissonante qui reflète le chaos mental du tueur psychopathe. Voilà. Et c'est très très curieux parce que Morricone adorait Belmondo, il y a comme 4 films. Et quand on lui parlait de Port-sur-la-Ville, il avait une espèce de mou de dédain. Et la dernière fois que j'en ai parlé, je lui ai dit, vous savez, Julie Aignaud, c'est une musique qui a marqué au fer rouge plusieurs générations en France, et même qui a été importante pour plusieurs générations de compositeurs, notamment Alexandre Desplat, qui a lui-même réécrit un arrangement pour vous représenter dans un disque, hommage, de Port-sur-la-Ville pour le Trafic Quintet. Et Morricone m'a regardé et m'a sorti cette phrase qui m'a abandonné au bord du néant. Il m'a dit « Oui, pourquoi pas, mais pour ma part, ce n'est pas un acte héroïque de composition. » Mais on peut dire ça, et on peut dire aussi qu'en même temps, les créateurs ne sont jamais forcément les meilleurs juges de leur propre travail.
Alors, il y a l'autre film, une autre partition qui a fait parler d'elle, c'est celle du Professionnel.
Là encore, si Morricone, à la limite, il grinçait un peu sur Port-sur-la-Ville, sur le Professionnel, il refusait carrément de s'exprimer. Donc c'était plus simple, vous aviez devant vous un mur de mutisme, a fortiori quand, en clin d'œil, on essayait de lui parler de Royal Canin.
Rappelons pourquoi, quand même, au passage, pourquoi Royal Canin ?
Écoutez, vous pouvez le faire comme
non,
moi.
Non, ce sera dans votre voix.
C'est un chien, un labrador, je ne sais plus, qui court au ralenti dans une prairie, avec la version de Kimaï, mais version boum, boum, boum. Voilà, et j'ai un camarade qui s'appelle Jeff Domenech, qui est un grand ami de Jean-Paul Belmondo pendant ces dernières années, et qui m'a avoué avec malice, il m'a dit un jour qu'il avait pu voir le testament de Jean-Paul Belmondo, et que concernant la musique des funérailles, Belmondo avait dit « Ah, concernant la musique, évidemment, je vous interdis de diffuser Kimaï du Professionnel », et rajoutant avec tellement d'esprit juste à côté « Bon, allez, si ça vous fait plaisir, faites-le quand même !»
À ce moment de notre balade dans l'univers musical de la filmographie de Belmondo, un nom n'est pas encore apparu. Et c'est un paradoxe puisque c'est celui du compositeur qui a le plus écrit pour Belmondo, le surdoué Georges Delerue. Il est l'auteur notamment des partitions de La Sirène du Mississippi de Truffaut, L'Homme de Rio de De Broca, Tendre Voyou de Jean Becker, Le Cerveau de Gérard Houry, Cartouche de Philippe De Broca et 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil.
Ah, c'est très curieux parce que Delerue adorait Belmondo, donc on le disait tout à l'heure, il a mis en musique 8 Belmondo, ouais. C'est le recordman absolu, et surtout il a mis en musique Belmondo avec Lino Ventura, donc l'Astourisque, premier long métrage de Claude Sautet. Donc il retrouve le binôme, mais dans un contexte complètement différent. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de croisement mutant entre Le Salaire de la Peur, les camions, et en même temps, la langue des tontons flingueurs de Michel Audiard. Je pense que c'est la musique de Georges Delerue qui donne l'impression au spectateur que la couleur est à l'écran, et de faire ressentir vraiment la lumière et le jaune, ou les nuances de jaune de ce désert.
Alors, il y a un autre film de Delerue, Belmondo, et qui est un film important dans la filmographie de Belmondo, et c'est Cartouche.
Ouais. Dans Cartouche, il y a un mouvement. C'est un film qui commence dans la légèreté, comme une espèce de fantaisie épique, et dont le ton va se noircir au fur et à mesure, pour se terminer sur cette séquence sublime où Belmondo pousse le cercueil de Vénus, Claudia Cardinal, dans les eaux sombres d'un lac. Et c'est vrai que Cartouche, pour Belmondo, pour De Broca et pour Delerue aussi, c'est vraiment le film qui les fait changer, monter d'une case d'un point de vue professionnel. Belmondo est déjà une petite star avec À bout de souffle, évidemment. Mais là, il tourne dans un film qui, sur son nom, en partie, va faire 3,6 millions de spectateurs. Cartouche a été déjà une forme de reconnaissance et vraiment de changement de statut pour eux trois.
Autre partition très belmondienne que nous n'avons pas encore évoquée avec Stéphane Le Rouge, celle du film de Philippe de Broca, Le Magnifique. Comme on l'a vu en parlant de Borsalino, elle a été composée par le musicien de jazz Claude Bolling, avec tout le brio nécessaire pour rendre la dualité du personnage principal et ses différentes facettes burlesques.
Musique magnifique. Pour moi, c'est une des grandes partitions belmondiennes. C'est Claude Bolling, et avec une musique qui raconte le sujet du film. C'est une musique qui est en équilibre entre le réel et l'imaginaire. Il y a des musiques réalistes, une java quand la femme de ménage, Monique Tarbes, vient passer l'aspirateur, et puis une musique qui est un appel au rêve, à ces délires exotiques que vit le personnage dans ce monde parallèle qui est celui de l'espion Bob Sinclair. Et voilà. C'est une formidable partition. C'est une des grandes réussite de Claude Bolling au cinéma.
Stéphane Le Rouge nous donne pour conclure trois mots pour définir Belmondo. Trois, pas tout à fait.
Quand il a tourné L'Homme de Rio, Philippe de Broca a dit « Je fais un film que j'aurais voulu voir quand j'étais enfant à 12 ans. » Et ben moi, Jean-Paul Belmondo, quand j'avais 12 ans, il est l'adulte que j'aurais voulu devenir.
Ça va, on prend les trois mots. Merci Stéphane Le Rouge. C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui l'a réalisé avec aujourd'hui Benjamin Troncin. Merci aussi à Thierry Dupin. Ce sont tous les quatre des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode, Flic et ou voyou, Belmondo et le polar.